Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Vous aurez compris comme moi que c'est un tout petit peu la panique au sommet de l'État. Que certes, le soufflet du mouvement des Gilets jaunes est un peu retombé en termes de mobilisation, mais que ses effets sur la conduite de la politique nationale sont encore bien présents. La preuve avec ce cafouillage tout récent sur ces mesures annoncées comme supprimées, puis réinstaurées quasi immédiatement, histoire d'éviter une seconde lame de protestation. Le mouvement est d'autant plus perturbant pour l'exécutif qu'il n'est pas incarné par un ou plusieurs leaders, si ce n'est Francis Lalanne, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Bref, pas de chef, et donc pas d'interlocuteur précis. Mais est-ce que ça peut durer ? Comment est-ce qu'on maintient l'énergie d'une mobilisation massive sans des leaders pour organiser les choses ? Comment l'État peut-il négocier quoi que ce soit s'il n'y a personne de l'autre côté de la table ? Comment tout ça peut se traduire politiquement dans les sentiers très balisés de notre bonne vieille 5ème République ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à ces questions, il nous fallait remettre la situation actuelle dans une perspective historique, car ça n'est pas la première fois que des mouvements sans leader émergent et font bouger les lignes. C'est même devenu très à la mode depuis quelques années, en Tunisie, en Égypte, puis en Ukraine, en Turquie, ou au Brésil, des forces similaires ont émergé, et un chercheur français s'est penché sur leur évolution, Yves Cohen. Il est historien, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il a signé tout récemment un long et passionnant article sur le site Politica baptisé « Les foules raisonnables » qui traite précisément de notre sujet. Je suis donc allé le voir chez lui à Paris. Et pour démarrer, je lui ai demandé pourquoi on a du mal intellectuellement à se dire qu'un mouvement puisse perdurer sans leader.
On a été formé dans l'idée qu'il faut être organisé, qu'il faut que ça soit une institution, qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie, que s'il n'y a pas de leader, ça va dans tous les sens. Et c'est toute l'histoire du XXe siècle qui a été ça. Hein. Parce qu'au En fait, ça date du XXe siècle. Hein. Au XIXe, il y a déjà eu des partis, des syndicats, des choses comme ça. Mais l'intensité de cette idée de « il faut s'organiser, il faut des chefs, nous avons besoin de chefs », c'est vraiment le XXe siècle. Donc maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est une sortie du XXe siècle, si vous voulez. Mais une sortie du XXe siècle qui fait un peu son deuil du XXe siècle. Parce que, par exemple, cette idée de on a besoin de chefs, c'était valable dans l'entreprise, dans l'armée, évidemment dans le pouvoir, l'administration, tout ce que vous voulez, mais aussi dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement socialiste. Si vous regardez ce qu'était le communisme, et en particulier le bolchevisme, c'était très hiérarchisé, avec des chefs, avec l'idée que la classe ouvrière avait besoin de chefs, d'une organisation avec des dirigeants. C'est exactement ce qu'il y a dans le fameux livre de Lénine « Que faire ?» qui a été publié en 1902 et qui est fondamental pour la création justement du parti bolchevique, c'est-à-dire de la fraction bolchevique du parti ouvrier de Russie. Hein? Et ben, que faire ? C'est l'idée de l'avant-garde, l'idée des professionnels, l'idée de il faut des gens pour orienter les masses ouvrières et qu'elles aillent pas comme on disait à l'époque vers l'économisme, mais qu'elles aillent vers la révolution.
C'est quoi l'économisme, si on peut expliquer ?
L'économisme, c'est l'idée, c'est un peu le mouvement spontané des ouvriers, des classes populaires qui réclame eh ben, une hausse des salaires, une amélioration des conditions de travail, qui réclame des choses qui se traduisent en termes économiques, en termes financiers. C'est cette idée. Alors, ça peut être aussi les paysans qui réclament des bons prix d'achat pour leurs produits ou des trucs comme ça.
Des revendications concrètes.
Concrètes, c'est ça, et d'ordre économique, mais qui donc ne sont pas forcément porteurs d'une dimension révolutionnaire, d'une dimension politique immédiate. Et donc, la critique de l'économisme, c'est justement, elle vient des partis qui veulent orienter vers la révolution, vers le politique, les ouvriers, les employés, les paysans, etc. Ils disent, nous, il faut dépasser l'économisme, si vous voulez. Et c'est ça qui pose problème. Et on l'a vu dans tous les mouvements des années 2010, mais on l'a vu récemment dans les Gilets jaunes. C'est-à-dire que ce qui a fait le lancement des Gilets jaunes et ce qui a fait que les Gilets jaunes ont rassemblé des centaines de milliers de personnes, c'est cette contestation de l'augmentation de la taxe sur les carburants. Donc c'était un petit truc très économique, puisque c'était le budget du ménage, des gens qui allaient au boulot, qui revenaient du boulot, etc. C'était très, très économique. Et là, ça a très, très bien marché. Pour que cette revendication marche, il n'y avait pas besoin de leader. Et ce qui a été fantastique, c'est que la discussion là-dessus, la discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire, et même sur la violence, ça s'est fait sur place, ça s'est fait dans les réseaux, ça s'est fait... Ce mouvement, comme les autres des mouvements des années 2010, justement, ils réfléchissent sur le fait que, eh ben, si on s'adresse à des syndicats, si on laisse des partis intervenir, etc., ça n'ira pas mieux. Qu'il y ait des gens qui veulent être porte-parole, ok, ça se comprend. Mais on a bien vu la discussion sur les porte-paroles. En gros, ça n'a pas marché.
Ils sont délégitimés quasiment immédiatement.
Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Non, on reste dans des formes d'échange horizontal. Et ça, c'est l'échange horizontal, c'est quelque chose de fondamental. C'est une critique du XXe siècle, si vous voulez.
Vous l'avez dit, ce mouvement des Gilets jaunes, il s'inscrit dans une métamorphose de la démocratie du point de vue des foules dans les années 2010. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 2010?
Il faut voir tout ça comme un processus qui va durer très longtemps, qui dure déjà depuis très longtemps et qui va durer très longtemps. Tout est en discussion et c'est ça aussi qui est intéressant et que la discussion, elle se fait dans des tas d'endroits et en particulier, elle se fait très peu dans les endroits où elle se faisait habituellement. Ce tournant, il a été préparé, c'est-à-dire que je vais parler du tournant que je vois, moi, dans les années 2010, mais si vous prenez 68, déjà, une des choses centrales dans le 68, c'est justement déjà une idée anti-autoritaire. Et ça, c'était très présent dans le mouvement français, mais étudiants et ouvriers, d'ailleurs. Mais avant mai 68, il y avait eu, par exemple, le mouvement des étudiants allemands. Et déjà, il y avait cette tendance un peu anti-autoritaire. Si vous regardez le mouvement 68 dans sa dynamique, et ça a été le cas de la plupart des mouvements qu'il y a eu, eh bien, il n'a pas été dirigé. Personne n'a pu le diriger. Beaucoup de gens ont essayé, y compris le Parti Socialiste. Quand il y a eu la vacance du pouvoir le 24 mai, il y a eu le Parti Socialiste a fait un grand truc au Stade Charletti en invitant le mouvement de 68, qui n'est pas venu, parce que justement, il ne voulait pas se faire récupérer par les partis. Il y a eu toute une longue préparation de ce moment 2010. Mais alors, ce moment 2010, c'est pas quelque chose qui appartient en son début aux pays de vieille démocratie, justement, comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis. Ce qui est caractéristique de ces mouvements des années 2010, c'est les mouvements des places. C'est ce qu'il y a eu en Tunisie, c'est ce qu'il y a eu en Égypte, c'est ce qu'il y a eu en Turquie, en Ukraine avec Maïdan. Moi, j'y mets aussi les journées de juin au Brésil, même s'ils n'étaient pas sur une place, mais ils étaient. C'était un grand mouvement, justement, sans leader aussi.
Ça participait de la même dynamique.
Ça participait exactement de cette même dynamique, qui était cette idée de nous devons être présents. Nous devons être présents en personne et pas représentés. Personne ne va me représenter. Nous ne sommes pas représentés, justement, criaient les gens aussi bien à San Paolo que sur la place Taksim ou je ne sais pas quoi. Alors. Nous ne sommes pas représentés, c'était pas non plus l'idée, il faut briser la démocratie représentative, il faut s'imposer à elle, par une adresse directe, à partir de la rue, sans porte-parole, sans représentant. Par exemple, en Turquie, pour reprendre l'exemple turc, de la place Taksim pour sauver le parc Gezi, sur lequel on voulait construire un grand centre commercial en détruisant le dernier parc d'Istanbul. Erdogan, il a voulu négocier avec les gens. Mmh. Et personne n'y est allé. Mmh. Personne ne voulait justement négocier. C'est un peu comme la ZAD ici. C'est,
Ou les Gilets jaunes, quand ils ont voulu faire venir les représentants et que personne n'est venu, à part un, je crois.
Oui, c'est ça. Deux. Donc, ils ont refusé d'y aller. Et Erdogan a inventé des représentants. Il a dit, vous allez être leur choix. Puis ça n'a pas marché non plus, etc. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était des places, c'est-à-dire que des lieux où il pouvait y avoir une délibération des gens. C'est là que se délibérait, que se discutait la revendication. Ça a fait des trucs totalement inouïs, qui avaient une force énorme. Grâce à cette délibération, à cet échange sur place, à ces nouvelles agora, on a parlé d'agora à propos des ronds-points, mais justement, les ronds-points, c'est beaucoup plus dispersé et éclaté. Mmh. Même si ça fonctionne aussi comme ça, c'est un lieu où les gens se retrouvent, apprennent à se connaître, se parler, mangent ensemble, préparent la bouffe. Et toutes ces activités comptent aussi. Hein. Ça a énormément compté pour Maïdan à Kiev. Préparer la nourriture pour tout le monde, se protéger du froid parce que c'était l'hiver, se soigner parce qu'on risquait se soigner des rhumes et des grippes, mais aussi des blessures de la police, organiser l'autodéfense, tout des tas d'activités dans lesquelles les gens non seulement discutent de ce qu'il faut faire, mais se retrouvent, partagent des choses, et se retrouvent entre des gens extrêmement différents. C'était aussi des creusets totalement renouvelés du social, quoi. Ce qu'on voyait, c'est des tas de gens d'origines différentes, de religions différentes. Mm. Par exemple, il y avait un truc en Turquie fantastique où les chrétiens et les musulmans priaient ensemble, où chez les musulmans, où d'habitude la prière se fait séparément entre hommes et femmes priaient ensemble et avec les chrétiens. Alors, pour montrer les rencontres, ou alors on voyait la construction des barricades à Kiev, on voyait tout le monde, y compris des dames en manteau de fourrure, qui construisaient les barricades. Donc, c'était des creusets sociaux fantastiques. Donc, ça représentait une force gigantesque qui n'était pas du tout comprise par les pouvoirs. Et ça a été grave dans beaucoup de cas. Faut se souvenir, Taksim, c'est 6 morts. Kiev, c'est 120 morts. En Tunisie, ça a été aussi beaucoup de morts. Et surtout, évidemment, l'Égypte. Donc, c'est des mouvements qui payent très cher leur force. Si vous prenez, par exemple, l'Ukraine, le lendemain de la fuite de Yanukovych...
Qui était le président ukrainien à l'époque. Le
président ukrainien pro-russe. Eh bien, le lendemain de sa fuite, Poutine s'est saisi de la Crimée. Et il l'a annexé. Donc, c'était une pure punition directe pour punir l'Ukraine, mais aussi profondément, et on le voit sans cesse dans le propos de Poutine, parce qu'il n'est pas question de risquer un Maïdan ou des Maïdans en Russie. Quoi. Vous voyez, donc la force de ces mouvements, c'est incroyable. Mmh. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu expérimental. Il y a une expérimentation populaire à l'échelle mondiale. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet sur le sort des Gilets jaunes. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, ça sera une expérience qui sera capitalisée. Le problème, ça sera le degré de répression qu'il va subir.
Justement, on a l'impression que tout le monde s'interroge sur la traduction politique de ces mouvements. On voit dans tous les exemples qu'on a cités, certains ont eu des victoires, ont remporté des victoires. La plupart, quand même, ça s'est conclu par un raidissement, un durcissement assez sévère de la politique, que ce soit à l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil. Erdogan est toujours en place et mène une politique, on peut dire, de plus en plus difficile. On peut s'inquiéter un petit peu de voir ce que ce type de mouvement en France peut donner et à qui ça va bénéficier politiquement.
Ces mouvements, ils sont intrinsèquement politiques. Même quand ils demandent l'annulation d'une augmentation de 20 centimes du prix du transport, même quand ils demandent la protection du parc Gezi, même quand ils demandent un tout petit truc comme ça, c'est quand même du politique. Ça met à l'épreuve parce que il y a tant de gens qui sont d'accord, tant de gens différents qui sont d'accord, que ça met en cause tout l'édifice politique. On l'a bien vu au début des Gilets jaunes, quand il ne s'agissait que de l'augmentation du prix du carburant. Rien que ça, et parce que ça a créé un effet d'unanimité, ou de très grande majorité, eh bien, ça a un effet immédiatement politique. Donc, d'une certaine manière, c'est politique. Et le mouvement, dans sa dynamique, est politique. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, traduction politique ? L'expérience montre que il n'y a pas de traduction politique directe des choses. Et j'ai eu des discussions au Brésil là-dessus, c'est-à-dire que des participants justement du mouvement de 2013 se sont beaucoup étonnés quand il y a eu les élections présidentielles en 2014, l'initiative, de voir que le mouvement, il avait justement pas de traduction dans l'élection, c'était totalement autre chose. Et ça renvoie aussi, par exemple, au mai 68 français. Le mai 68, ça a été le plus grand mouvement populaire, la plus grande grève ouvrière, des millions de grévistes. Alors, on disait 10 millions, il semble que ça soit un peu moins, mais c'était ça avait bloqué le pays pendant pas mal de temps. C'était un mouvement fantastique. De Gaulle a dissous la Chambre, il y a eu de nouvelles élections, et c'est une Chambre qui n'avait jamais été plus à droite qui est passée. Donc là, il n'y a pas eu de traduction politique, ce qui n'a rien enlevé à 68. Alors aujourd'hui, on dit 68 n'a pas eu de traduction politique, il n'a rien produit. Mais si, il a produit des tonnes de choses. Il a produit des nouveaux regards sur la politique, des nouvelles façons d'imaginer, de vivre ensemble. C'est à cause de 68 qu'il y a eu la création du MLF en 70, la création du phare du Front homosexuel d'action révolutionnaire en 71, d'un mouvement des travailleurs en 71 aussi, les communautés, la vie en communauté, le retour à la terre, des tas de choses, de pratiques, de façon d'être, de façon de faire, et de remise en cause de la société, qui sont intrinsèquement 68, et la remise en cause de la hiérarchie, de l'autorité. Donc il y a eu beaucoup de choses. Donc, traduction politique, en fait, s'il se crée, et ça s'est produit, Syriza, Podemos, s'il se crée des partis à partir de ces mouvements-là, eh bien, ils deviennent des partis comme les autres. C'est pas ça qui renouvelle la politique. Et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est le troisième temps de la réponse. C'est qu'il y a un enjeu vraiment très, très, très nouveau et que c'est un enjeu de réinvention du politique. On est, si vous voulez, dans un enjeu qui est un enjeu du rapport entre l'institutionnel et le non-institutionnel. Ces mouvements sont dans l'ordre du non-institutionnel. Ces mouvements n'ont de force que parce qu'ils ne sont pas institutionnalisés. C'est parce qu'ils surgissent, qu'ils trouvent à un moment la bonne formule. Ça a une force telle que ça marche. Et ça, on l'oublie trop. Avant les répressions des mouvements des années 2010 et 2020, ça marche. Mais c'est là qu'on est dans un truc de processus. Il faut maintenir cette capacité de ne pas être institutionnalisé. Et ça, c'est ça qui est très, très difficile. C'est y compris pour les mouvements eux-mêmes. Et on l'a vu, c'est une discussion qu'on lit Gilets jaunes en ce moment. De se préserver sans être institutionnalisé. Où est-ce que ça va mener ? Impossible de dire. Mais je ne pense pas que la solution, ça soit pour les Gilets jaunes de s'institutionnaliser, ou comme vous dites, de trouver une traduction politique. C'est déjà politique. Moi, ça me renvoie aux travaux d'un anthropologue français qui s'appelait Pierre Clastres et qui est mort très jeune, mais non sans avoir écrit un bouquin fantastique qui s'appelait « La société contre l'État ». En fait, on retrouve des caractéristiques qui sont les caractéristiques que Pierre Clastres décrivait pour des peuples premiers, comme on dit, ou des peuples amazoniens, c'est-à-dire tout un travail de ces peuples, de ces aussi petits soient-ils, pour empêcher qu'il y ait de l'État. C'était pas un refus du chef. Il pouvait y avoir des chefs pour des tâches temporaires, organiser la récolte, de préparer, de se protéger des intempéries, de reconstruire le village après le déplacement, des tas de choses de toutes sortes, et évidemment des chefs pour la guerre. Mais la question, c'était qu'ils ne se pérennisent pas. Donc c'était une démarche émancipatoire pour éviter la domination, si vous voulez. Et on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça dans ces mouvements. Ces mouvements, ces soulèvements, ces dynamiques non institutionnelles et non institutionnalisées cherchent une relation, une tension avec le monde institutionnalisé non pas à le détruire, mais à faire en sorte que le monde institutionnalisé le tolère.
Que restera-t-il dans 6 mois, 1 an de cette mobilisation des Gilets jaunes ? Impossible évidemment de le deviner. Certes, les élections européennes de 2019 nous diront en partie qui, sur l'échiquier politique actuel, récoltera le mieux les fruits du mouvement. Mais il serait dommage de s'arrêter à cette seule échéance, car comme le disait Yves Cohen, que je remercie d'ailleurs pour ses réponses, c'est sur le temps long uniquement qu'on mesurera son impact. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.